Bonjour et bienvenue à cette émission de conférences pectorales. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la topaze, la deuxième pierre du pectoral, qu'il a intitulée « Pierre de la sagesse ».
On continue maintenant l'enseignement sur la deuxième pierre du pectoral, la topaze, la deuxième partie, que j'intitulerai « Pierre de la sagesse ». Ces enseignements, nous vous le rappelons, ont été produits en fascicule unique, pour chacune des 12 pierres du pectoral. Ça a été aussi rassemblé, compilé dans un livre, notre livre que nous avons produit en 2009, lors de ma première étude sérieuse sur le sujet du pectoral, dont la première mention dans la Bible se trouve dans le fameux chapitre 28 du livre d'Exode. On va commencer au verset 17. Seulement, je vais lire ce verset-là pour montrer où cette pierre était. « Tu y enchasseras, Dieu disait à Moïse, donc dans le pectoral, sur le pectoral, une garniture de pierres, 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. » Alors, nous regardons la topaze, la deuxième pierre, l'hébreu se lit de droite à gauche. Je rappelle que en hébreu, c'est « pidda », en grec « topazion », et sur l'échelle de dureté du professeur Moe, de 1 à 10, elle est évaluée à 8. Dans les anciens temps, elle était connue comme une variété jaune des corindons, ou jaune verte, identifiée à la chrysolite ou au péridote du groupe des olivines. C'est aussi la pierre d'ornementation du 9e fondement de la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, versets 19 à 20. Et « pidda » de l'hébreu signifie « le jaune ». Topazos du grec signifie chercher et trouver. Cette deuxième pierre du pectoral gravée dans l'ordre des naissances des 12 fils d'Israël porte le nom de Siméon qui signifie qui écoute et qui a été entendu en Genèse 29, 33. On va regarder maintenant l'énumération des enfants de Jacob qui sont mentionnés dans la Genèse. Les premiers noms se trouvent dans chapitre 29. Le premier fut Ruben par Léa, le second Siméon par Léa, le troisième Lévi par Léa, le quatrième Judas par Léa, le cinquième Dan par Bilha, servante de Rachel. On est maintenant dans le chapitre 30 de la Genèse. Le sixième Nephtali par Bilha, servante de Rachel, le septième Gad par Zilpa, servante de Léa. Aser, le huitième, par Zilpa, servante de Léa aussi. Le neuvième, Issachar, par Léa. Le dixième, Zabulon, par Léa. Le onzième enfant, c'était une fille, c'était Dina, par Léa. Le douzième fils, Joseph, par Rachel. En fait, on va dire le douzième enfant. Et le treizième enfant, c'est Benjamin par Rachel. Et là, on est rendu dans le chapitre 35 pour Benjamin, dans le chapitre 35 de la Genèse. Le septième enfant, donc, ce fut une fille, Dina, et de l'hébreu, ça signifie justice ou jugement. Siméon a deux symboles qu'il représente sur sa bannière. Vous savez que chaque tribu était identifiée par une bannière. On pense possiblement de la même couleur que les pierres du pectoral, et il y avait un symbole. Et ici, lui, il y en avait deux, une cruche avec un poignard et la porte d'une ville. Son nom était donc sur la topaze, deuxième pierre du pectoral. Le cristal de la topaze se casse toujours dans le même lignage que sa matrice. C'est ce qui distingue cette pierre de ses imitatrices ou imitateurs, ce qu'on voudrait nous faire croire comme étant de la topaze et qui ne le serait pas. Premièrement, nous comparons cette pierre à la sagesse. Job, dans son livre, se sert des images de pierres précieuses de la création pour évaluer la sagesse, dans le chapitre 28 de son livre. Tous les minéraux qu'il nomme, l'or, l'argent, le saphir, l'onyx, le cristal, les perles et la topaze, ne valent pas le prix de la sagesse. Elles sont cependant des produits précieux de la nature que l'homme acquiert par ses recherches. Donc, dans son chapitre 28, Nous lisons au verset 3 et verset 9 et 10 par la suite. « L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusqu'en dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. » J'ai dit verset 9 et 10, « L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. » Dans tout ce chapitre qui explore et compare, il finit en déclarant au verset 28, puis il dit à l'homme, il parle du Créateur, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » David, lui, dans le psaume 111, va plus loin. Il affirme que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, au verset 10. Et dans un autre livre qui parle beaucoup de sagesse, celui des Proverbes, premier chapitre, verset 7, il est dit, dans la Bible annotée de Frédéric Godel, il est dit que la crainte de l'Éternel, en s'appuyant sur le premier chapitre, verset 7, est le principe de toute connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et dans la Bible, Louis II, 1910, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, pour ce verset-là. La version Osterwald dit, elle, « La crainte de l'Éternel est le principal point de la science. » Jacob, avant de mourir, a béni ses fils, et en arrivant à Siméon, voici ce qu'il a dit. « Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse pas à leur assemblée. » Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Genèse 49, 5 à 7. Jacob fait allusion à la ville de Sichem, qui a été passée par l'épée de Siméon et de Lévi, parce que Sichem, fils de Hamor, avait couché avec leur sœur Dina. Ça se trouve, ça, dans Genèse 34. Selon la prophétie de Jacob, ils devaient être séparés parce qu'ils formaient ensemble un conseil qui n'était pas sage. C'est la raison pourquoi nous avons regardé dans Job la comparaison de la sagesse avec les pierres précieuses, y compris la topaze. Jésus-Christ a comparé l'homme sage à celui qui a bâti sa maison sur du solide, dans Matthieu, au chapitre 7, versets 24 et suivants. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. La traduction Parole vivante utilise l'expression « celui-là ressemble à un sage ». Il y a quelques années, une maison a été emportée par un glissement de terrain dans la région de Saint-Jude, Québec. Malheureusement, 4 personnes ont péri dans cet affaissement. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la région était reconnue comme une région à risque. Combien ne veulent pas écouter les paroles du Seigneur et savent, en fait, qu'ils prennent des risques? Le deuxième point qu'on va voir avec la topaze, pierre de la sagesse, c'est un jugement faussé qui crée des divisions. Siméon et Lévi, son frère, ont été trop violents et c'est pour cela que Jacob, leur père, a prophétisé sur eux de les séparer. Ils n'ont pas usé de l'épée de Salomon, mais de celle de la violence. Quoique Salomon, c'était assez fort ce qu'il a eu comme déclaration. On parle de l'épée de Salomon. C'est l'histoire qu'on trouve dans le premier livre des Rois, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, versets 16 à 18. Deux femmes sont là, se présentent devant Salomon et ont un seul bébé. Et les deux disent que c'est leur bébé. Il y en a une des deux qui ment, c'est certain. Alors Salomon, pour établir le jugement, bien dit, et pour régler cette affaire-là, dit « Apportez-moi une épée. » et puis trancher l'enfant en deux, et puis donner-leur chacun une moitié. Et la femme à qui appartenait cet enfant-là a frémi et a réagi, et Salomon a dit, bien, gardez le bébé et donnez-lui à cette femme, c'est elle sa mère. Et les auditeurs et tous ceux qui assistaient à ce jugement étaient frappés de cette façon de faire de Salomon, de cette sagesse qu'il avait d'ailleurs demandé à Dieu et que Dieu lui avait donné une grande sagesse. Et il y a un autre passage qui parle de la sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est dans le chapitre 3 de Jacques que nous avons lu ces versets. Il y a ensuite l'épée de Damoclès. Elle parle d'un péril imminent et constant, avoir un danger connu quasi inévitable et imprévisible temporellement qui nous menace. L'épée est une arme de guerre, elle symbolise la puissance, la force, la violence. C'est un instrument de mort. Ainsi, l'expression « une épée de Damoclès » ou « une épée, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête », c'est une expression apparue au début du 19e siècle. Ça représente la notion de danger et de mort qui menace inévitablement. L'expression, en réalité, provient d'une légende citée par Horace et Cicéron au 1er siècle avant Jésus-Christ. Denis, l'ancien de Syracuse, reçoit avec opulence Damoclès, ravi par la puissance et la richesse du roi. Celui-ci s'est retrouvé à sa place en goûtant le bonheur éphémère et précaire des puissants. Étant menacé par une insécurité constante, Denis fit asseoir le courtisan sous le danger invisible mais réel que courait constamment un roi. Une épée était suspendue par un fil, un cheveu ou un crin de cheval, la pointe en direction de la tête de Damoclès. Il pouvait alors comprendre sa délicate position face à un danger en suspens qui le guettait. Dans le cas de Siméon et Lévi, c'était leur colère. Rappelons-nous que selon la tradition, un des signes qui représentait Siméon était une cruche avec un poignard. Nous qui disons être croyants et disciples de Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu, mais parfois il y a des choses qui nous remplissent nos cœurs, nos pensées, nos esprits, qui ne sont pas de lui. Il y a le danger de s'unir à celui aussi qui partage notre colère, un Lévi habitué à l'épée du sacrifice, qui peut mélanger lui aussi par manque de jugement, colère humaine et l'intention même de Dieu. Ces personnes qui croient bien faire, mais qui agitent l'épée à tort et à travers. Il y a aussi l'épée de la justice. Dans Romains, au chapitre 13, les premiers versets, nous lisons « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. »
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement du pasteur Jean-Marc Brochu. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@commercial.gmail.com.